Bonjour à chacun. Merci pour ce petit moment de joie exprimé par la musique, par nos musiciens. Sentez-vous tous accueillis dans ce lieu ce matin, accueillis d'abord au nom de Dieu, de notre Seigneur, ce Dieu avec son amour généreux, large, sans frontières, et qui nous accueille dans chacune de nos situations. On est aussi en pensée ce matin avec pas mal de personnes d'entre nous qui sont parties en vacances. Des vacances en famille qui sont des éléments importants aussi de nos vies de famille, qui pour moi parfois évoquent des souvenirs un peu lointains et nostalgiques. Voilà. On est en pensée aussi avec notre pasteur Philippe Anchaud, qui doit voyager, je crois, aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure, pour revenir d'une mission en Thaïlande où il animait un séminaire avec une association qui fait un magnifique travail d'aide aux victimes de la prostitution, des trafics humains, etc., à Bangkok. J'ai le plaisir de voir aussi que Claude Bécher est de retour parmi nous. Voilà. Que le Seigneur le bénisse dans sa santé. Voilà, après une intervention chirurgicale qu'il a subie au début de l'année. Et puis, bienvenue aussi à des amis qui viennent de quelques centaines de kilomètres d'ici. Enfin, ce matin, ils arrivent des vergers, le verger de Saint-Loup à Versoix. Alors, il s'agit de Jean-Claude Elisha Saillant, que beaucoup d'entre nous connaissent déjà, mais pour d'autres, c'est tout à fait nouveau. Ils ont un magnifique projet de service à la population au nom de l'Évangile. Ils veulent vraiment rejoindre les gens du lieu avec l'Évangile dans une petite cité du nord de l'Italie qui s'appelle Fucecchio. J'espère que je le prononce juste. On doit toujours s'exercer à l'avance pour essayer de respecter Licia et cette belle langue italienne. Voilà. Alors, ils auront l'occasion de nous présenter ce beau projet et Jean-Claude nous apportera le message de la part du Seigneur ce matin. Puis vous êtes aussi accueillis au nom du groupe Mission de l'Église, qui est présidé par Paul-Robert Chanson. Il y a dedans Zena et Thierry Battisti, il y a Johnny Killa, il y a Denise Albisser, et puis Noémie Keller, qui nous a rejoints tout récemment, et moi-même. Et c'est un groupe qui est là pour accompagner, soutenir, faire connaître des gens qui sont en lien avec notre Église et qui sont en mission, mais nous aussi on est tous en mission, mais qui sont en mission hors de nos frontières. Voilà. Alors en mai 2016, on est allé avec toute une équipe de marins, mais je crois qu'on était une vingtaine, j'ai regardé encore sur les photos ce matin, on est pour aller visiter Jean-Claude et Licia et voir le démarrage de leur projet. Et puis hier matin, avec ce groupe Mission, on les a rencontrés, ils nous ont partagé beaucoup de choses super intéressantes, mais vous en saurez un peu plus tout à l'heure. Voilà, je vous propose de prier maintenant pour remettre la suite de ce culte. Seigneur, merci pour le ministère de Jean-Claude Elisha Saillant. Merci pour chacune des personnes qui sont venues ce matin pour te rendre un culte et pour écouter ta parole. Seigneur, inspire chacun de nous, encourage ceux qui ont besoin d'être encouragés, interpelle ceux qui ont besoin d'être interpellés, que ta présence se fasse sentir parmi nous ce matin. Amen. Voilà, je vous propose maintenant d'entrer dans un temps de louange animé par l'équipe de Xavier Schmitt et Olivier Varidel.
Donc vous avez entendu en introduction un chant que vous connaissez déjà sûrement, que les enfants ont chanté au camp, l'année passée au camp famille. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, réveillez l'enfant qui est en vous. On a tous un enfant en soi, et puis surtout pour louer le Seigneur. Donc je vous invite à vous lever. Viens avec moi, louer le roi. Viens avec moi, fais le bon choix. Il est ton sauveur, il est ton seigneur. Chantons-le ensemble d'un même cœur. Viens avec moi, louer le roi. Viens avec moi, fais le bon choix. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur, chantons-le ensemble d'un même cœur. N'attends pas demain, frappe dans tes mains, pousse un cri de joie pour le roi des rois. Oh oh, stop avec tes pieds, pourquoi pas danser, tu peux même sauter pour le célébrer. Viens avec moi, louer le roi, viens avec moi. Fais le bon choix, il est ton sauveur, il est ton Seigneur, chantons-le ensemble d'un même cœur. Viens avec moi, louer le roi, viens avec moi, fais le bon choix, il est ton sauveur, il est ton Seigneur, chantons-le ensemble d'un même cœur. N'attends pas demain, dans tes mains, pousse un cri de joie pour le roi des rois. Tape avec tes pieds, pourquoi pas danser, tu peux même sauter pour le célébrer. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. cœur, je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand et ton est puissant, oh majestueux. Oh Dieu, tu es. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Conduis-moi vers toi, Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton. Je te reçois. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi, Esprit. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois.
Alors on va prier pour nos enfants qui ne sont pas là en vacances, mais ça n'empêche pas. Alors, comme dans Matthieu 1, le chapitre portant sur la généalogie de Jésus, nos enfants sont les fils et filles de leurs parents, et ils sont aussi les enfants de notre communauté. Alors, Père Céleste, nous te prions aujourd'hui pour les enfants de notre communauté. Veuille protéger chaque famille. Nous te prions de faire descendre l'abondance de ta bénédiction sur chacun des enfants. Accorde-leur de grandir avec ton enseignement, afin qu'ensemble ils puissent être un signe de ta fidélité pour tous ceux qui les entourent. Qu'ils apprennent à connaître ta volonté, qu'ils marchent sur tes chemins et reçoivent toutes les grâces dont ils ont besoin pour vivre selon ta parole dans la joie et ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À présent, c'est Paul Robert qui vous fait une présentation. Oh, pardon, une présentation des saillants.
Jean-Claude et Licia.
Voilà, c'est bon.
Plus de 40 ans que je les connais, en fait, et que certains d'entre nous les connaissent.
On était des gamins, nous, hein.
Et c'est vrai que ça fait plus de 40 ans, ils faisaient déjà partie, en tout cas pour Jean-Claude, de notre communauté à Mérin. Ouais. On se réunissait à la chapelle, à côté. Et Jean-Claude était avec une action de l'époque d'évangélisation de rue qui s'appelait le Coffee Bar. Et c'est dans le cadre de ce Coffee Bar qu'un jour, il m'a dit, dis donc, j'ai envie d'aller faire une école biblique, c'était en 1977, et est-ce que tu pourrais pas venir me remplacer au Coffee Bar? Nous, on venait pas encore ici à l'église, mais on habitait Mérin. Puis comme j'étais assez dans ce genre de truc, comme mission, etc., j'ai dit, pourquoi pas, je vais essayer, on y est resté 8 à 10 heures. Bon. Donc, et Jean-Claude est parti faire cette école biblique à Emmaüs, à l'époque ça s'appelait Emmaüs, c'est toujours là-bas d'ailleurs, et Licia, parce qu'il l'a rencontré entre-temps en Italie, est venue faire cette troisième année à Emmaüs. Jusque-là, je ne me trompe pas.
Non.
Bon sang. Et Jean-Claude, en fait, Licia me disait, c'est Jean-Claude, qui a une maman qui est italienne, bien juste, qui avait ce désir, déjà par sa langue maternelle, d'apporter, de faire quelque chose pour l'Italie. Et puis, il est allé se former, il avait ce désir de se former pour cela. Et ensuite, vous ne savez pas quoi, eh ben, ils sont venus faire leur stage pastoral, comme le fait actuellement, voilà, exactement. Eh bien, ils sont venus faire leur stage pastoral, j'ai calculé que ça devait être en 80 ou 81.
81.
Et ensuite, ils sont partis, et depuis là, ils sont nos envoyés de l'Église évangélique de Mérin en Italie. Et de la FRAE, donc notre union d'église, FRAE, où à l'époque c'était les AESR. Mérin, donc l'église d'Enfoy, depuis bientôt 40 ans de Jean-Claude et Licia. Ils ont commencé un ministère un peu pastoral, évangélisation à Termoli, puis à Scandicci, les enseignements bien sûr, puis ensuite à Fucecchio, où là le ministère c'est, enfin, près de Florence. Pour un ministère, depuis Candici et à Florence, de couples et familles, de relations d'aide, d'aide aux églises, etc. Ils nous en parleront un peu plus. Licia nous a dit hier, en fait, ce qu'ils voulaient vivre, c'était l'amour en action en Italie. Ils vont nous présenter leur ministère actuel et Jean-Claude nous apportera le message. Et comme je dis en ces occasions de rencontres, bienvenue à la maison.
Merci.
Vous êtes ici, en fait, chez vous.
Oui.
C'est votre église d'Envoi.
Oui.
Merci pour votre visite, pour ce que vous allez nous apporter de la part du Seigneur aujourd'hui. Et bienvenue, bien sûr, on le disait tout à l'heure, à la table de communion du Seigneur, où nous aurons le plaisir de partager ensemble ce moment de communion intense.
Merci.
Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, quel plaisir de se retrouver entre frères et sœurs, d'être ici avec toi, dans ta présence. Et nous voulons te remettre tout spécialement Jean-Claude et Licia dans ce qu'ils ont à nous apporter. Que tu les remplisses de ta liberté, de ta sagesse, de ton esprit, afin que ce qu'ils ont à nous dire nous accompagne au long de cette semaine et les jours d'après. Nous les bénissons en ton nom, tout spécialement, Seigneur, aujourd'hui. Et encore, nous voulons te rendre gloire pour toutes choses et ce ministère depuis plus de 40 ans. Amen.
Amen. Merci.
À vous la parole.
Ok. Alors, il m'a fait pleurer. Fouchekio, hier, on l'a répété 10 fois au moins et ça va pas. Ça va, Robert, je te pardonne. Tu sais pas ce que tu dis. Bon, alors, moi, on m'a dit que j'ai 10 minutes, même 11 peut-être, pour vous parler un peu de ce qu'on fait actuellement en Italie. Oui, on est parti en 1981 pour l'Italie. Ça fait maintenant presque 40 ans, presque. Hein? 83. C'est vrai, parce qu'on a... Oui, c'est vrai. Et notre ministère a changé au fil des années. On est parti avec un ministère couple et famille. On a d'abord travaillé 4 ans dans l'église de Termoli comme pasteur. Et puis là, on s'est rendu compte tout de suite des difficultés que les familles, les couples avaient, ou bien les parents dans l'éducation des enfants. Alors, on a été appelés dans la région de la Toscane, dans la région de Florence, et on a travaillé pendant 17 ans dans l'église de Scandicci. Et en même temps, donc on avait un travail local dans l'église, mais en même temps, on a développé tout ce ministère pour couples et familles. Et actuellement, on travaille et on vit à Fucecchio. C'est au milieu entre Florence et Pise. Si vous tracez une ligne, nous on est juste au milieu, 40 km d'un côté, 40 km de l'autre. Notre ministère actuellement est divisé, disons, en 3 grandes parties. La première partie, ça s'appelle Arbre de vie, Albero della Vita. La deuxième partie, c'est le ministère couple et famille qui s'appelle Insieme, ça veut dire ensemble. Et puis Sovigliana, c'est l'église qu'on fréquente, dans laquelle on travaille actuellement aussi. Jean-Claude est un des responsables. C'est une église qui sort d'une période très très difficile et qui est en train vraiment de grandir, de chercher le Seigneur avec tout son cœur. Et on a beaucoup de joie à travailler avec eux. Moi, je m'occupe des femmes et je fais d'autres choses, je vais vous expliquer après. Alors, parlons un petit peu de l'arbre de vie. Vivre un évangile incarné. Alors, ce nouveau projet est né un soir où notre fils, un des trois, le deuxième, nous a vu rentrer dans un de ces week-ends d'église, loin du côté de Milan peut-être. C'était 00h30, on était crevés. Et il a dit, maman, papa, qu'est-ce qui va rester après vous? Il voulait dire, quand vous mourrez, voilà, il n'a pas dit comme ça, mais c'est ça qu'il voulait dire. Qu'est-ce qui restera de tout ce travail que vous faites? Alors là, on a accueilli cette parole de notre fils et on a compris qu'il fallait s'arrêter un moment, prendre un petit recul et savoir quel projet on voulait maintenant partager. Le projet, c'était justement l'arbre de vie, c'est ne plus tourner comme des hélices, mais faire du bien à notre ville, la ville dans laquelle on vit. On vit dans une ville de 23 000 habitants, donc ce n'est pas grand, ce n'est pas petit, ça fait 23 000 personnes. Et on a été interpellé par ce verset qu'on trouve en Jérémie. Faites du bien à cette ville, parce que du bien de cette ville dépendra le vôtre. Donc nous, on veut bénir notre ville, partir avec les habitants de notre ville, les gens qui vivent à côté de nous. Et on avait un projet dans notre tête, mais on est allé visiter le responsable des services sociaux de la ville et on a demandé, on s'est présenté, on est l'association L'Arbre de Vie, on veut servir notre ville, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Eh bien, il a dit, croyez-moi, mot par mot, le projet qu'on avait déjà dans la tête. Et nous, on a dit, on est prêt à le faire. C'est-à-dire un travail pour les familles, en faveur des familles, au travers des enfants. Donc, rejoindre les couples au travers des enfants. Et quelqu'un dit que nous faisons un travail social. Moi, on n'aime pas cette définition. Nous, on fait, c'est de l'amour en action. Ce n'est pas un travail social. On aime les gens qui sont à côté de nous. Et en tant qu'Église, on n'attend pas que les gens entrent dans l'église et viennent nous trouver, mais nous, on aime aller vers eux. Donc, c'est un mouvement contraire. On va vers les gens, on fait tout plein de choses. On fait une aide scolaire pour les enfants. Il y a, même si on est 23 000 habitants, il y a un mélange culturel incroyable. On a beaucoup d'enfants musulmans qui viennent du Maroc, par exemple. Beaucoup d'étrangers, donc ils ont des problèmes scolaires et les parents ne peuvent pas aider. Je dirais même que souvent, c'est les enfants qui font le trait d'union entre les mamans et la société parce que les mamans ne savent pas la langue, donc l'italien. Et donc, nous, on offre une aide scolaire pour les enfants, on offre de l'anglais. On va commencer avec un vestiaire dans 2 semaines. On va recommencer. On a acheté un local, on a loué un local à côté d'une autre. J'étais sur celle d'avant, merci Jean-Claude. Ok. Il existe maintenant dans notre région un ensemble d'associations qui essayent de travailler en réseau. Ça s'appelle Table des vieilles et nouvelles pauvretés. Ce qui est intéressant dans ces rencontres qu'on a une fois par mois, c'est que chacun amène ses richesses et ses pauvretés. C'est-à-dire, si on a besoin de quelque chose, on dit, nous, on a besoin de gens qui n'ont pas de logement ou on a besoin d'un travail pour une certaine famille. Et eux, ils font la même chose. Donc, chacun amène ses ressources, mais demande de l'aide pour ce qui manque. Donc, nous, on s'est engagés vis-à-vis de cette table des vieilles et nouvelles pauvretés. Comme église, en tant qu'église, on donne des cours d'italien pour étrangers, pour adultes, le lundi et le mercredi soir. Donc, parce que chacun doit faire quelque chose. Nous, on a offert ça et on a beaucoup de gens de la Moldavie, du Nigeria, du Maroc, tout plein de personnes. Et moi, j'essaye d'être présente le plus possible avec le prof d'italien. Voilà, le cours d'italien. Ça, c'est la soirée où, à la fin du cours, on donne un certificat. Ce certificat, pour ces gens-là, c'est très, très important. Parce que c'est marqué qu'ils ont suivi un cours d'italien pendant, 50, 60 heures. Et quand ils vont demander le permis de séjour, c'est important pour eux d'avoir ce certificat. Donc, il y en a déjà de ceux qui ont reçu, ça c'est notre prof d'italien, Giuseppe, il n'est pas chrétien, prier pour lui parce qu'il nous voit vivre, il nous voit agir, et il est interpellé, mais il est vraiment extraordinaire, une personne extraordinaire. Mais il y a des gens que grâce à ce papier qu'ils ont reçu, ils ont déjà eu le permis de séjour en Italie. Et c'est important parce que si vous suivez un petit peu la politique italienne, et vous avez entendu parler de Salvini. En ce moment, c'est vraiment terrible en Italie. Il y a vraiment la politique de... On haït les gens, on haït ceux qui ne sont pas comme nous. N'importe qui. C'est les Italiens d'abord. Et il y a des choses vraiment très, très moches qui sont en train de se passer aujourd'hui en Italie. Voilà. Puis on a le vestiaire. On va commencer dans 2 semaines. Et c'est une expérience qu'on a déjà fait dans le passé. On suivait 300 personnes. Cette fois-ci, on aimerait aussi, si on a la possibilité, distribuer aussi de la nourriture, parce qu'on nous le demande souvent. Et maintenant, on aura la permission aussi de donner de la nourriture. Les locaux qu'on a loués, c'est ceux à côté de l'église, vous voyez, c'est fermé maintenant. Il y avait une coiffeuse qui est parti, et donc ces locaux sont restés vides, et on les a tout de suite loués. On aura même l'opportunité de créer une porte entre les deux, donc ça va faire quelque chose de très, très joli. Et puis avec le projet Arbre de Vie, l'été, enfin à la fin de l'année scolaire, on a aussi des camps pour enfants, ça s'appelle English Sport Camp. On a Fiona, je ne sais pas si elle est là ce matin, non. Fiona de cette église, ça fait déjà 2 ans qu'elle vient nous aider. Ça nous fait vraiment très plaisir. C'est un camp en anglais. Les activités sportives sont toutes en anglais. On a de l'aide depuis l'extérieur des États-Unis ou de l'Angleterre. Mais ce qui est important, c'est que pendant ce camp, on peut parler du Seigneur. Alors, pendant l'aide scolaire, on ne peut pas le faire. C'est des mineurs, on ne peut pas se permettre. Sinon, il faut nous amener des oranges à la prison de Scandicci. Mais pendant le camp, on peut le faire, parce que nous, on le met sur la publicité. Donc, si des parents nous envoient des enfants, c'est qu'ils sont d'accord qu'ils fassent des leçons bibliques aussi. Donc, voilà. Home Run, c'était la première année qu'on l'a fait. Et tu peux passer la prochaine, Jean-Claude, il y a différents moments du camp. Ce qu'on a vu après les 4 ans, ça fait déjà 4 ans qu'on fait les camps, ce qu'on a vu l'été passé, c'est qu'on a commencé à gagner la confiance des parents. C'est-à-dire les parents vraiment aiment ce qu'on fait, ils nous le disent. Il y a même eu l'été passé un couple de grands-parents qui nous ont dit, qui sont venus vers moi et m'ont dit, vous savez, c'est très beau ce que vous dites, ce que vous faites avec ces enfants. Ça nous a beaucoup émus. Et puis le grand-papa qui fait, vous savez, quand on s'aime, on recueille. Je dis, oui, on sait très bien ça, c'est notre espoir, on travaille dans cet espoir-là. Oui, puis il y a l'aide scolaire, Jean-Claude. Ça, c'est différents moments, leçon d'anglais en bas. Hier, j'ai reçu un message d'un papa qui nous avait amené la semaine passée son fils qui a, il est dyslexique mais il a un peu de problèmes. Et j'ai fait 2 heures d'histoire avec lui. À la fin, il m'a envoyé un message. Il a pris 8 sur 10 et il avait 5 sur 10. Donc, ça nous chauffe le cœur de voir qu'on s'efforce, mais il y a des résultats. Et eux, c'est les premiers à être heureux. Voilà, ça, c'est notre programme. Je m'arrête là. Je ne sais pas si j'ai fait 10 minutes ou 20 minutes. Mais après le repas, j'aurai l'occasion de vous donner beaucoup plus d'explications et de nouvelles. Surtout d'une femme que je suis en train de suivre maintenant, qui vient du Maroc, qui s'appelle Fouzia, et ça me fera vraiment plaisir de vous en parler. Voilà, merci.
Dieu le Seigneur Tout-Puissant.
Voilà, donc pour la prédication, nous avons trois lectures bibliques. Je vais commencer avec le psaume 126. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Quand l'Éternel a changé le sort de Sion, nous étions comme dans un rêve. Alors nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. Alors on disait chez les autres peuples, « Oh, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses ». Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Viens changer notre sort, ô Éternel, comme quand l'eau coule à nouveau dans les lits des rivières du Négev. Qui sème dans les larmes moissonnera avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant alors qu'il porte sa semence reviendra en poussant des cris de joie alors qu'il portera ses gerbes.
La deuxième lecture se trouve dans Galates 4, 7 à 10. Ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est aussi ce qu'il moissonnera. C'est lui qui sème pour sa propre chair, récoltera la moisson de la chair, la pourriture. Mais c'est lui qui sème pour l'esprit, récoltera la moisson de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en voulu si nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, œuvre pour le bien de tous, en particulier pour la maison de la foi.
Et le dernier texte, dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, versets 7 à 11. Prenez donc patience, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il en ait reçu les produits précoces et tardifs. Vous aussi, prenez patience, affermissez votre cœur, car l'avènement du Seigneur s'est approché. Ne soupirez pas les uns contre les autres, mes frères, pour que vous ne soyez pas jugés. Le juge se tient aux portes. En matière de souffrance et de patience, mes frères, prenez pour exemple les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons « Bienheureux ceux qui ont enduré ». Vous avez entendu parler de l'endurance de Job ? Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de magnanimité. Que Dieu te bénisse au milieu de nous.
c'est une joie pour moi ce matin de vivre ce moment de culte avec vous, de revoir des visages très connus et puis aussi de voir des visages que je découvre. Et c'est une belle occasion. J'aimerais que nous nous concentrions ce matin sur ce psaume assez bref, le psaume 126. C'est un psaume qui a un petit lien avec ce que Litcha a partagé quand elle disait « on sème la semence dans la confiance qu'un jour il y aura des fruits ». On en voit des tout petits, on espère, et on a la confiance qu'il y aura des fruits plus importants. Mais au-delà de nous, les années passent, on sait qu'on est... On n'est pas là pour du très long terme encore, donc, mais l'importance aussi de la semence et de s'engager dans la confiance que ce que nous faisons pour le Seigneur est important et porte des fruits. Le psaume est intéressant car il affirme des choses très belles, mais en même temps, il faut recueillir un peu le pourquoi de ce psaume. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce psaume? Quelle était la préoccupation? Quel était le problème? Parce qu'il y a des affirmations très belles, mais au verset 4, tout d'un coup, il y a cette expression « Viens changer notre sort éternel ». Donc, nous ne savons pas ce qui se passait, mais nous parlons d'une situation difficile. Probablement un des moments de crise dans l'histoire d'Israël, un moment de difficulté, d'angoisse. Et c'est intéressant de voir comment l'auteur du psaume agit à partir de cette situation qui le tracasse. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, une réflexion aussi pour les temps de crise et une réflexion aussi pour l'importance de notre engagement persévérant. Que fait l'auteur du psaume? Il commence par déclarer la fidélité, la bonté de Dieu, les interventions de Dieu pour bénir, pour rétablir, pour libérer son peuple. Certaines traductions font référence au retour de l'exil, d'autres préfèrent voir une référence beaucoup plus générale aux interventions de Dieu de toutes sortes dans l'histoire d'Israël. Quand l'Éternel a changé le sort de Sion, Dieu a changé le sort de Sion de différentes manières. Dans des moments de famine, de siège, de captivité, d'épidémie, des tas de moments critiques dans l'histoire d'Israël et le souvenir d'intervention de Dieu. La façon dont Dieu agit dans l'histoire pour bénir, pour libérer, pour fortifier est le motif, le moteur qui met en route l'espérance. Se rappeler de ce que le Seigneur a fait. Le prophète Isaïe, dans le chapitre 51, a des paroles merveilleuse. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur la carrière d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur votre ancêtre Abraham et sur Sarah, celle qui vous a donné naissance. Abraham était tout seul quand je l'ai appelé, et je l'ai béni et lui ai donné une grande famille. En effet, l'Éternel console Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert pareil au jardin d'Éden, sa plaine aride pareil à un jardin de l'Éternel. On trouvera au milieu d'elle la joie et l'allégresse, la reconnaissance et le chant des cantiques. Les interventions de Dieu, le témoignage de ce que Dieu a déjà fait dans l'histoire du peuple, c'est important. Évoquer tout cela, il y a cette expression merveilleuse, quand on repense à ces moments, c'était comme un rêve, c'était quelque chose de vraiment fantastique. Et c'est important pour nous de nous rappeler constamment qui est notre Dieu, qui est le Seigneur. J'aime beaucoup le final de cette lecture qui a été faite dans la lettre de Jacques. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Cette affirmation fondamentale, qui est ce Dieu que nous servons, ce Dieu que nous suivons, c'est un Dieu d'amour, de tendresse, de compassion, un Dieu qui nous est favorable, un Dieu qui désire construire quelque chose avec nous. Donc, c'est le mouvement du psaume. Tout d'abord, se rappeler qui est ce Dieu auquel nous nous adressons, et nous nous adressons à lui dans les moments de difficulté, il n'y a pas de doute. Quand la situation se fait difficile, nous nous tournons vers lui et nous demandons son intervention. Ce qui est intéressant dans le psaume, c'est qu'il y a en fait deux images complémentaires de la façon dont Dieu réalise la bénédiction, la libération, le rétablissement de l'ordre créationnel. Il y a deux idées complémentaires qui sont intéressantes. Tout d'abord, il y a une invocation d'une intervention soudaine de Dieu, où l'être humain est complètement passif. Comme quand l'eau coule à nouveau dans les lits des rivières du Négev. Négev, c'est une zone désertique. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a ces rivières qui se forment dans l'espace d'une ou deux heures, quand tout d'un coup des pluies très fortes arrivent. Alors là, où jusqu'à un moment, il n'y avait rien, à l'improviste, vous avez ce torrent d'eau impétueux qui arrive. Et c'est une image du type d'intervention que Dieu peut faire pour son peuple. Donc il y a cet appel, cette image et cette attente, Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et en même temps, il y a une autre image, c'est celle qui est prise en prêt à l'expérience de l'agriculteur. C'est une action lente, difficile, où l'homme joue un rôle crucial. Dans la première, l'homme est passif, dans l'autre, il a un rôle déterminant, hein, comme le semeur. Le moment de la semence n'est pas un moment facile. Il y a un travail, il faut beaucoup d'espérance. C'est tellement fragile, tout le travail de la campagne. Il suffit d'un peu de gel, pas assez d'eau. Enfin, on n'est pas agriculteur, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être agriculteur pour comprendre la fragilité, la difficulté de ce travail. Alors, il y a un peu ces deux images. D'un côté, oui, Dieu peut intervenir d'une manière éclatante, mais en même temps, nous sommes appelés à produire un effort, un engagement persévérant. Il y a un peu ces deux dimensions, le travail, l'intervention de Dieu, mais aussi le travail pénible de la semence. Et là, l'espérance est fondamentale. Voilà. Ça, c'est un peu un résumé disons, du mouvement de ce psaume. Le souvenir des interventions de Dieu, la joie éprouvée, l'aridité de la situation présente et la demande pressante d'une intervention de Dieu. Et au milieu d'une situation difficile, il est important de se rappeler la valeur d'un engagement persévérant. Ça, c'est un peu le contenu de ce psaume. Alors, très simplement, qu'est-ce que nous pouvons vraiment en retirer pour nous? Alors, une première chose qui me frappe passablement dans ce psaume, c'est que nous sommes pleinement responsables. L'importance de notre engagement, l'importance de la persévérance, avoir confiance dans le Seigneur n'est pas une autorisation pour se relaxer, pour dire « oui, Seigneur, fais le travail ». Non, nous devons nous mettre en jeu, nous devons agir et nous responsabiliser. Et l'engagement pour le Seigneur demande beaucoup de persévérance. Cette pensée m'est venue, en fait, quand je lis ce psaume, je dis nous sommes bien loin de la mentalité très diffuse actuelle du tout de suite. Hein. Les belles formules pour obtenir tout de suite des résultats. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, ce n'est pas comme ça qu'on construit. Il faut découvrir la valeur de la persévérance et de la confiance dans le Seigneur pour construire quelque chose qui tienne le coup dans le temps, quelque chose de solide, quelque chose de valable. La mentalité du tout de suite fait des dégâts. La mentalité du obtenir avec le moindre effort ne construit pas grand-chose. On peut le voir aujourd'hui dans la situation des couples et des familles, par exemple. Nous sommes aussi conseillers conjugaux, donc nous voyons tellement d'histoires tristes où le sens de l'engagement manque totalement. Tant que ça baigne dans l'huile, on se sent au troisième ciel, au troisième, septième ciel, quand on est avec l'autre, avec notre conjoint, tout va bien. Quand il faut pédaler, quand il y a des montées, quand il y a des difficultés, ça ne va plus, on pose les plaques. Donc cette mentalité est très présente et l'idée de l'effort pour recueillir une bénédiction n'est pas du tout répandue. En Italie, on vient d'avoir final hier soir ce qui s'appelle le Festival de San Remo. Je déteste ce machin, je crois que je ne suis pas seul, mais enfin, ça fait beaucoup parler, discuter d'une manière très futile dans les médias. Hier soir, il y avait la soirée finale et j'ai lu un petit truc qui m'a fait aussi pas mal réfléchir. Un des invités de ce festival est un chanteur très, très connu et très apprécié du public féminin, Tiziano Ferro, homosexuel marié, mais très apprécié du public féminin. Ceci dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Hier soir, il a lu un monologue que j'ai pu voir sur Internet, qui avait des contenus très intéressants. Mais il y avait une phrase particulière. Il disait à un moment donné, le bonheur n'est pas un privilège, c'est un droit. Qu'est-ce qui a frappé les journalistes ? Cette phrase-là. Mais pas dans le sens, c'est discutable, mais vraiment dans le sens, oh, génial. Génial. Le bonheur n'est pas un privilège, c'est un droit. Le droit, ben, vous pouvez le revendiquer matin, après-midi et soir, si vous ne faites rien pour construire une relation qui soit une bénédiction, qui soit un encouragement, qui soit une relation où l'amour finalement peut triompher, ben, ça ne va pas se passer comme ça. Donc il y a un peu cette mentalité, et le psaume est très loin, parce qu'il nous rappelle la valeur de l'engagement persévérant. L'espérance, et ça c'est aussi intéressant, se nourrit du souvenir des interventions passées de Dieu. Alors il y a deux façons de se nourrir des interventions passées de Dieu. J'ai fait une référence là aussi au livre de l'Ecclésiaste. Ne dis pas, comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceux-ci ? Car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à demander cela. Alors on peut avoir un souvenir nostalgique du passé, dire oh, ça c'était le bon vieux temps. Là, c'était sympa, ça marchait bien. Plus on a des cheveux blancs, plus on peut être tenté de le faire. Seigneur, préserve-nous de cela. Et puis, en même temps, il y a une autre façon de se rappeler. Oui, le Seigneur était fidèle, fidèle dans l'histoire d'Israël, fidèle dans l'histoire de l'humanité, hein, pensant à Jésus-Christ, à sa venue, à sa mort, au don de sa vie, à sa résurrection. Et puis, on peut penser aussi des fois à la vie de nos familles. L'importance aussi de raconter, de témoigner à nos enfants ce que le Seigneur a été pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Donc, il y a une façon d'évoquer, de se rappeler l'histoire passée qui, en fait, nourrit l'espérance et est quelque chose qui nous met en mouvement, qui nous pousse vers un engagement persévérant. Donc, c'est une différence et c'est important. Une autre chose que je souligne, c'est que l'espérance et la foi dans l'intervention de Dieu ne nous libèrent pas de notre responsabilité d'agir avec persévérance, peu importe le prix à payer. Dieu agit, mais cela n'enlève pas notre responsabilité. Quand je pense à l'action Arbre de vie et de ce que ça implique pour nous et pour les volontaires qui nous aident, ben, le sujet de la persévérance est important, parce que c'est très joli sur le papier, c'est très joli de décrire ce qu'on est en train de faire, c'est joli de penser à des moments quand on fait des camps et on a 80 enfants de notre commune qui viennent, tout ça c'est super et c'est un motif de joie et de reconnaissance. Mais en même temps, c'est dans la perspective de témoigner, de vivre, de partager l'amour de Dieu, eh ben, c'est quelque chose qui demande une persévérance qui n'est pas facile. Ce n'est pas, tous les jours simple. Ça demande beaucoup de temps, d'énergie. Et ça ne se passe pas toujours facile. Il y a des moments où on a moins d'impact. Il y a des moments où on sent des parents très proches de nous. On a l'occasion de parler, de témoigner du Seigneur. Puis tout d'un coup, on a l'impression qu'ils sont du jour au lendemain, ils sont complètement indifférents. C'est vraiment, la persévérance n'est pas un thème banal quand on parle de vivre le témoignage et de partager l'évangile. C'est important. Si on dépend de nos états d'âme et des résultats apparents, on n'ira pas très loin. On sera très vite démotivé. Donc, l'importance d'avoir une vision claire que, comme le semeur, comme l'agriculteur, il y a un travail persévérant, un travail difficile à fournir, mais avec l'espérance et la certitude dans notre cœur que le Seigneur fera en sorte que tout ce que nous faisons pour lui porte du fruit. Une dernière pensée qui me paraît intéressante dans ce psaume, c'est de voir les lieux desséchés comme des fleuves potentiels. Les situations bouchées, les situations critiques peuvent être comme ces lieux dans le désert où on voit qu'il y a un lit de quelque chose qui devait être un fleuve et puis il n'y a pas une goutte d'eau. Et puis d'un moment à l'autre, dans l'espace d'une ou deux heures après des pluies, vous avez un torrent impétueux qui passe sur qui passe au travers du désert. Donc les lieux desséchés, arides, peuvent être des fleuves potentiels. Les moments de difficulté peuvent devenir des moments de bénédiction, d'enrichissement. Je crois qu'en tant qu'évangélique, on a un verset qui nous plaît passablement, mais je trouve toujours que c'est un verset qui était souvent très mal utilisé, c'est Romains 8, 28. Hein? Il dit, il y a plusieurs traductions possibles, mais enfin, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, etc. Alors, on a une mentalité occidentale qui fait que, alors oui, si Dieu peut retirer du bien d'une épreuve, d'une maladie, vous perdez votre travail, enfin, imaginez une situation critique, Dieu a voulu donc, hein, Dieu m'a enlevé mon travail parce qu'il voulait me bénir au travers d'un temps d'épreuve. Ce n'est pas la mentalité hébraïque, ce n'est pas la façon de raisonner de Paul, qui était un hébreu. Il n'y a pas une relation de causalité telle que nous, en occidentaux, nous la construisons. Alors c'est simplement, vous êtes dans les difficultés, nous vivons un moment difficile, un moment d'épreuve, de découragement. Quel est le message? C'est Dieu qui nous envoie ça? Ce n'est pas la bonne question. On n'en sait rien. On n'a pas d'explication, sinon on devient comme les amis de Job qui donnent des explications loufoques qui ne font pas avancer le schmilblick. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons cette certitude que dans les moments de difficulté, si nous vivons ces difficultés en recherchant le Seigneur, en recherchant son aide, l'aide de son amour, de sa grâce, ça peut être un moment de bénédiction. Le désert peut devenir un lieu de bénédiction, un lieu où coule l'eau avec abondance. Donc la bonne question n'est pas pourquoi, mais comment nous pouvons vivre ces moments. Et le psaume nous ouvre des pistes, hein, je le répète, nous ouvre des pistes. Se rappeler des interventions passées de Dieu dans l'histoire biblique, mais aussi dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de notre communauté, dans notre histoire personnelle, notre histoire familiale. Se rappeler de ses interventions, se rappeler que avant les fruits, avant la récolte, il y a tout le temps de la semence et le temps où tout doit croître, pousser, et souvent ça se passe très lentement. Il faut de la persévérance et le Seigneur veut bénir cet effort. Voilà un peu le mouvement que j'ai trouvé dans ce psaume et qui m'a un peu interpellé, d'abord en pensant à ce que nous vivons comme arbre de vie et tout ce que ça implique pour nous. Quand je dis nous, c'est pas simplement Litch et moi, c'est les volontaires qui nous aident. La plupart sont membres de l'Église où nous sommes engagés, mais il y a aussi quelques volontaires externes. Et nous avons vraiment besoin d'être motivés, tel que ce psaume nous le déclare. Nous avons besoin de savoir que Dieu a agi et Dieu agira encore. Et en même temps, il nous demande d'être persévérants, de ne pas nous décourager quand il y a des moments plus difficiles, quand les résultats sont moins exaltants, mais avoir cette persévérance. Alors ma prière ce matin, c'est que ces réflexions puissent aussi dire quelque chose pour vous dans vos contextes individuels, familiaux, de travail et d'église. Je ne connais pas grand-chose de la réalité de ce que vous vivez comme Église évangélique de Mérin, mais je crois que là, il y a un encouragement pour nous tous, pour notre engagement et pour la persévérance. Amen.
Nous allons passer à un temps de prière libre. Seigneur, nous te remercions pour Jean-Claude, Elicia et tous ceux qui, par le monde, proclament ta parole et en sont le reflet de toi, le Dieu qui peut faire toutes choses au-delà de ce que nous imaginons. Amen.
Discerner ce qui est devant nous. Et de là, Seigneur, dans cette espérance d'être à ton service, tu vas nous donner la persévérance pour y arriver. En Jésus-Christ. Amen.
Amen.
choses difficiles avec sa femme depuis des années et qui garde la foi. Seigneur, encourage-les, fortifie-les. Et ils sont un exemple pour nous de ténacité. Seigneur, j'invoque ta puissance de guérison sur Werner. Renouvelle-le et nous voulons bénir Werner et le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Particulièrement cette région d'Italie. Tu touches la Toscane, tu touches l'Italie, ce pays me tient à cœur, puisque je suis moi-même une Italienne, mes pères. Je prie que tu touches cette région, tu la visites par ton esprit et qu'il puisse y avoir vraiment une action de ton esprit dans cette région. Que tu touches les autorités. Que tu touches toutes ces personnes qui ont soif et faim de toi, qui cherchent la vérité. Merci de les bénir puissamment. Merci de les fortifier. Et tu entends leurs prières, tu entends leurs demandes à ce qu'il y ait une relève. Je prie pour qu'il y ait une relève, pour qu'il y ait des personnes qui se lèvent, que toi tu appelles dans ce ministère de missionnaire, dans ce ministère-là, des personnes que tu choisis, que tu oins particulièrement. Et que, sachant que, nos prières s'élèvent devant toi et dans ce sens-là, que tu vas agir, nous nous attendons à toi pour qu'il y ait une relève. Et je te remets l'Italie parce que j'ai à cœur ce pays et je te prie que tu visites ce pays qui a besoin de ton action, Père. Et aussi au niveau de la politique, Père, nous te remettons tous ces politiciens dans cet esprit qu'a mentionné Licia de haine de ce qui est différent, alors que toi, tu as créé la diversité. Tu aimes la diversité. Et Père, je te prie que tu mets des dirigeants à la tête de ce pays, qui soient des dirigeants qui agissent selon ton cœur, qui soient vraiment des personnes qui puissent remettre, qu'il y ait de l'ordre qui soit remis dans cette politique et dans cette manière de gouverner, de diriger ce pays. Je le bénis, ce pays.
Amen. Seigneur Jésus, merci pour l'amour que tu as pour Jean-Claude et Licia et pour ces vies qui changent avec leur témoignage vivant à Fucecchio. Nous te prions, Seigneur, réconforte le cœur de ceux vers qui tu les guides. Nous te prions aussi, Dieu Tout-Puissant, pour leur protection. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Voilà, nous allons partager ensemble ce temps de Sainte-Cène. On célèbre chaque dimanche la grandeur de Jésus-Christ, mais Jésus a parlé de sa grandeur à ses disciples en disant « Je suis venu non pour être servi, mais pour servir. » C'est ça la grandeur de Jésus. Il l'a fait jusqu'au don de sa vie. Et Jésus est le modèle même de cet amour en acte dont Lichia nous a parlé, et qui est notre vocation de chrétien et notre vocation d'Église. Célébrer la Sainte Cène, c'est penser au pardon que Jésus nous offre à tous, mais c'est aussi penser à ce modèle qu'il est pour nous, pour être amour en acte autour de nous. Nous voulons lire le texte qui nous rappelle le dernier repas de Jésus.
Institution tirée dans Marc 14, 22, 26. Pendant le repas, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit : Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Jésus leur dit : Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le règne de Dieu. Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers.
Notre Dieu, merci. Merci pour cette vie donnée. Merci parce que tu nous as libérés. Libérés de notre péché, libérés de nos... de toutes les chaînes pour nous permettre d'être amour en acte autour de nous. Accompagne chacun de nous pendant que nous partageons ce repas. Et chacun de ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ son Seigneur, son Sauveur, est invité à partager librement le pain et le vin. Le pain sera distribué par des personnes. Pour le vin, il y a des petits godets de jus de raisin au centre et du vin à l'extérieur. Et ceux qui souhaitent prendre directement à la coupe peuvent lever la main et on vous apportera la coupe.
Et maintenant, on vous propose de prier le Notre Père ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Alors nous entrons maintenant dans un temps d'offrande. J'invite les musiciens et le groupe Louange. Nous allons faire ça en musique.
On va chanter un chant qui n'est pas très connu, qui parle de la croix, que l'on remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et on veut adorer l'agneau qui a été immolé pour nous. Et vous pouvez vous lever pour le chanter. Si vous ne connaissez pas, vous lisez aussi les paroles. Et puis on va le chanter deux fois, comme ça vous pourrez l'intégrer après. Mais
Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour tant de bonté. Merci pour tes mains percées. Ô torrent de ton amour, je suis lavé et pardonné pour toujours. Digne
groupe louange. J'aimerais remettre l'offrande. Merci Seigneur, car la vraie richesse que tu nous donnes, c'est de t'appartenir. Merci pour les dons de chacun, qu'ils puissent fructifier et servir à notre Église pour être témoins dans ce monde de l'amour du Christ et notre façon d'être à ses côtés. Pour ta gloire, Seigneur. Amen.
Peut-être juste une petite précision avant les annonces. Les offrandes, elles servent à la vie de l'Église locale, mais une partie aussi contribue à notre fédération d'Églises et à un soutien très partiel, mais un soutien quand même à nos amis missionnaires en Italie. Mais c'est vrai que leur ministère dépend aussi d'un soutien personnalisé d'un groupe d'amis en Suisse. Et ce groupe d'amis aurait besoin un petit peu de se renouveler. Donc si certaines personnes qui ne les connaissaient pas sont intéressées à soutenir ce ministère dans leur soutien personnel, vous pouvez leur demander les informations pour être inscrit sur la liste de ce groupe d'amis.
Bonjour. Alors, les annonces du jour. Alors, tout de suite après le culte, donc, il y aura le repas canadien. Alors, si vous avez oublié ou que vous ne pensiez pas rester, mais que vous avez envie, osez, il y a toujours assez à manger. Mardi commence la nouvelle série d'ateliers bibliques sur le thème « Comprendre, témoigner, rencontrer auprès de mon prochain de différentes confessions ». Alors, il y a des papillons comme ça sur le présentoir avec le thème et les dates de toute cette série de rencontres, d'ateliers bibliques. Donc, mardi soir, 20h15, la première conférence, enfin, atelier, pardon. Dimanche prochain, colloque extraordinaire. Donc, tout de suite après le culte, aura lieu ce colloque extraordinaire. Vous avez dû recevoir, si vous êtes sur les listes, vous avez dû recevoir par mail ou par courrier. L'heure du jour, donc il n'y a qu'un point, c'est la nomination du groupe de recherche d'un poste pastoral à 50% pour succéder à Claude qui part à la retraite. Alors, c'est peut-être un peu bizarre, mais c'est nécessaire pour que le groupe puisse commencer son travail. Alors, on vous demandera de bien vouloir rester et pour ce petit colloque qui ne va pas durer longtemps. Il n'y a qu'un point à l'ordre du jour, mais c'est nécessaire. La journée interéglise, donc le 23 février, il n'y aura pas de culte ici, puisque c'est la journée interéglise du réseau évangélique de Genève, avec tout un programme. Donc, pas de culte ici. Le fil d'argent, le mardi 3 mars, à 14h30, avec Guy Gentison sur l'Arménie. Ça sera très certainement très intéressant. Le 27 mars, alors, Jeunesse en mission Genève, pour lequel travaillent Thierry et Rebecca Terra, organise le repas annuel dans nos locaux ici. Donc, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 13 mars. Il y a aussi des papillons sur le présentoir à la sortie. Voilà, Mérin-les-Bains. Bon, vu le temps qu'il fait aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est bientôt l'été, mais pas tout à fait. C'est un projet qui entre dans le cadre de rejoindre Mérin, service d'un repas à préparer. Donc, c'est Claude Parnigoni qui est le responsable. Bon, il n'est pas là aujourd'hui, mais vous pouvez déjà voir. Et puis, dimanche prochain, il sera là, puis il vous en dira un peu plus, il donnera plus de détails. Le camp de la FRE, du 25 juillet au 1er août, si vous êtes en train d'organiser, prévoir vos vacances pour cet été. Alors, l'orateur sera Flavien Negrini, donc le frère de Jean-François, qui est à Poitiers, qui est venu ici il n'y a pas très longtemps. Les inscriptions dès le 23 février à 13h. Alors, il paraît que les inscriptions, ça arrive très vite, donc pas vous laisser prendre de vitesse si vous réfléchissez, si vous avez envie d'y aller. N'oubliez pas, dès le 23 février, le week-end d'église, donc on vous en parlera plus longtemps, mais si vous n'avez pas noté la date, ben, notez la date. 26-27 septembre. Et voilà, je crois que c'est tout. Alors, juste encore le rappel, sur un coffre, les coffres au fond, il y a des CD et des vinyles, disques vinyles à donner. Alors, si ça vous intéresse, regardez, servez-vous. On va le laisser encore un dimanche après. Ceux qui ne seront pas partiront à l'escale à Saint-Pré. Alors, allez voir avant, puis prenez tout ce qui vous intéresse. Et donc, Philippe rentre, comme Sylvain l'a dit, rentre ce soir. Il est quelque part maintenant en vol. À partir de mardi, donc il sera de nouveau au bureau. Demain, son jour de récupération. Et puis, à partir de mardi, il sera de nouveau au bureau. Voilà.
Merci, Elisabeth. Juste une petite demande. Vous avez vu un peu le groupe Mission ce matin en action. Ce groupe a besoin de renouvellement. On a besoin de personnes qui seraient intéressées par la mission, intéressées à accompagner les gens comme on l'a fait aujourd'hui, comme on l'a fait hier, et puis d'autres choses, organiser d'autres choses pour notre Église. Si l'un ou l'autre d'entre vous, ou l'une ou l'autre d'entre vous, sont intéressés par ce service, eh bien, qu'ils prennent simplement contact avec moi ou avec l'un des membres de l'équipe. Et nous les renseignerons, nous ferons un plaisir de vous inviter à notre prochaine rencontre. Merci.
Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Notre fatigue n'est pas vaine dans le Seigneur. Avec ses certitudes, puissions-nous marcher dans la semaine qui commence et vivre ses paroles. Que le Seigneur bénisse chacun et fortifie ses convictions. Amen.